Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Midi Toulousain proposée par les Toulousains de Toulouse. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Jean-François Ladjé.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et donc une ville visigothe qui connaît une prospérité, donc qui dit prospérité dit construction.
Et surtout une entente objective, surtout sur des plans un petit peu particuliers, notamment le plan religieux. Tu peux nous en dire davantage ?
Oui, Aline, bien sûr, puisqu'on avait consacré la fois précédente au rôle capital et au palais. Dans les changements de la ville, il y a effectivement le volet religieux. On ne revient pas dans le détail sur la différence entre les Niciens et les Ariens. La population gallo-romaine nicienne, la population visigothe de rite arien. Les deux sont chrétiens, mais n'ont pas les mêmes rites. Le dogme est un peu différent, on n'y revient pas. Et ils construisent un bâtiment tout à fait unique en Gaule, qui est l'église de qu'on appelle aujourd'hui Notre-Dame de la Dorade, hein, au bord de la Garonne. Donc c'est cette église-là dont on va parler aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, hein, Aline, Sébastien, chers auditeurs, parce que cette église, autant le palais supposé, on est prudent, a été découvert à une époque récente, c'est l'archéologie, hein, c'est 88-89, c'est vestige d'un palais du 5e siècle qui ne peut être autre chose qu'un palais royal visigoth. Autant la Dorade, elle était très bien connue. Alors le paradoxe, c'est qu'il n'en reste rien, mais qu'elle était très bien connue parce qu'elle a été construite, maintenant on en est quasiment sûr, par les Visigoths, donc au 5e siècle, et qu'elle a perduré jusqu'à sa destruction en 1764, date à laquelle elle a été reconstruite sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, l'église de la Dorade.
Peut-être, Toulouse, capitale du vandalisme, peut-être on peut dire que la disparition de l'église de la Dorade, elle est du fait des bénédictins de la Dorade, qui n'ont pas voulu... l'église était pas dans bon état, ils n'ont pas voulu... Ils ont préféré la laisser la démolir. Et refaire autre chose.
Alors,
j'exagère peut-être un peu.
Non, tu n'exagères pas.
Enfin, la ville n'y est pour rien.
Alors la seule chose que je nuancerais, c'est que ce n'est pas propre à Toulouse.
Ah oui, oui,
et
oui,
que
non,
Montalembert,
mais c'est sûr.
Quand même, quand il a sorti cette phrase-là, c'était dans un contexte politique,
oui,
et avec des erreurs
pensées. Mais c'est la tarte à la crème, ça.
Qui était quand même, voilà, et en fait, c'est plutôt, je dirais, une question d'évolution de la notion de patrimoine. C'est-à-dire qu'à l'époque, un bâtiment en mauvais état, soit on n'a pas trop les moyens, on le rafistole, et si les architectes ont du talent, on arrive à faire quelque chose de beau, d'utile, d'harmonieux, qui concilie différentes époques. Soit on démolit, on fait autre chose, et c'était comme ça à peu près partout. Et pas le fait ni de Toulouse, ni des bénédictins de la Dorade. A contrario, enfin, ce que tu dis m'évoque le fait qu'à Saint-Cernin, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en pleine période gothique, l'église est terminée, mais elle est terminée selon le plan roman. C'est-à-dire que partout ailleurs, quasiment, un édifice, on construisait au fur et à mesure en fonction des évolutions de style. Et à Saint-Cernin, c'était le choix inverse. C'est-à-dire qu'on a commencé à l'époque romane, donc en style roman, et puis on a fini la nef. Donc vers le massif occidental, en plein XIIIe siècle, mais on a fait le choix de continuer à construire selon le projet initial. Donc la notion de patrimoine.
Oui. Donc pour la Dorade, c'est un petit peu un livre ouvert aussi, parce que c'est un édifice qui a évolué dès le départ.
Exactement.
Bah, avant sa destruction.
Comme pratiquement toujours. Donc on le reverra quand on arrivera au Moyen-Âge, aux bénédictins, et notamment aux reconstructions du XIIe siècle. Là, au XIIe siècle, les bénédictins ont pris soin de conserver l'abside visigothe et de l'intégrer à leur nouvel édifice.
Donc elle est laissée intacte.
Donc ce qui était intéressant jusqu'en 1764, c'est que la partie vraiment intéressante, enfin en tous les cas qui fascine tout le monde, hein,
le cœur.
Voilà, c'est l'abside et donc le cœur.
Oui.
Et c'est de ça dont on va parler. Sachant que Tout a été détruit, il ne reste que quelques petits morceaux de tesselle, de mosaïque, des débris de colonnettes. Ici ou là, au musée Saint-Raymond.
Du bel atelier de la Dorade.
Voilà. Mais heureusement, dans les bénédictins, un siècle avant la démolition, on est en 1633, là il y a un bénédictin qui s'appelait Dom Lamotte. Il en avait fait une description. Une description avec des annotations et avec des schémas. C'est-à-dire qu'il a carrément fait des schémas de ce cœur de l'église primitive en notant avec beaucoup, beaucoup d'annotations. Et ce sont ces annotations qui ont beaucoup intéressé les archéologues. Alors, il y a eu pas mal d'hypothèses. Hein. On ne savait pas trop est-ce que c'est vraiment les Visigoths, est-ce que ce n'est pas plutôt les Francs, est-ce que ce n'est pas le 5e siècle, est-ce qu'on ne peut pas... Voilà, parmi tous ces éléments-là, ça a été compliqué d'y voir clair.
Je peux dire quand même qu'il y a une maquette de cet espace si particulier qu'on peut voir au musée Saint-Raymond.
Exactement. Donc, sur la base de la description de ce fameux bénédictin, dont Lamotte, je ne le dirai pas une troisième fois parce que j'ai du mal à l'articuler, mais grâce à cette description, il y a en effet cette maquette extrêmement intéressante. Aline, tu as tout à fait raison, qui montre dans les différents niveaux. Alors, je ne vais peut-être pas tous les décrire.
Quand même, on peut suggérer, parce qu'il y avait une présentation.
Que ne voyons-nous plus.
Oui, en gros, si vous voulez, pour donner un peu une allure, ça pourrait ressembler à des baptistères tels qu'on en connaît encore en Italie, à pans coupés. Alors, ce n'était pas un octogone, c'est-à-dire que c'était un heptagone, c'est-à-dire qu'il y a 7 côtés, mais relativement fermé. Et le 8e côté, c'est-à-dire celui qui n'était pas fermé, ouvrait sur un espace qui était donc une nef.
Rectangulaire,
avec toute la question qui est pour les archéologues de savoir si le bâtiment était construit d'une pièce, probablement non. Est-ce que c'était d'abord un bâtiment, peut-être d'origine romaine, rectangulaire, auquel les Visigoths ont ajouté le chœur pour le rite chrétien? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'était un monument romain, plutôt de forme peut-être semi-circulaire sur la base des travaux de Daniel Caz, donc qui a considéré qu'effectivement il pouvait y avoir une récupération, il y a l'hypothèse d'un nymphée. Aline, je te laisse.
Oui, mais la question que je voulais te poser, c'est que est-ce que ce décor est un décor vraiment visigothique?
Ah, alors, une fois qu'on a réglé...
Compte tenu aussi de l'opposition nicéen-arien.
Ouais. Alors, cette opposition, en fait...
Il y a des choses qui ne doivent pas s'y figurer en rite arien.
Ouais. En fait, avec mon œil d'architecte, quand on regarde les édifices dans les régions de rite arien et celles de rite nicéen, ce que je comprends, et des travaux à la fois des architectes, des archéologues, des historiens, c'est que la différence, elle est dogmatique. Alors, peut-être un peu sur le rite, mais en termes d'édifice, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une nef qui sert aux fidèles pour stationner, c'est-à-dire on écoute l'officiant, qui lui est dans le chœur, et les fidèles sont dans la nef, l'officiant est dans le chœur, et... Quand même, ce système à 7 pans laisse supposer qu'il puisse y avoir quand même déjà une forme de... Alors, peut-être pas de déambulatoire au sens où on retrouve dans les églises plus tard, hein, ou de pèlerinage, c'est-à-dire on fait le tour du cœur, mais quand même, il y a cette idée d'un cheminement dans la partie à pans coupés, c'est-à-dire demi-circulaire. Hein. Voilà. Donc, le décor, après, si on en vient, plutôt à l'iconographie.
Eh oui, voilà.
C'est-à-dire que sur ces différents niveaux, hein, c'est-à-dire il y a un soubassement de marbre, puis après il y a des niches de colonnettes, hein, plusieurs niveaux, et puis une coupole demi-circulaire hein, pour couvrir l'édifice. Tout ça est recouvert de mosaïques d'or, et à l'intérieur des niches, il y a des quantités de statues, peut-être une cinquantaine. J'ai le chiffre sous les yeux, mais pas complètement. Enfin, bon, on va... Alors, mais ce sont... les figures du Nouveau, de l'Ancien et du Nouveau Testament. On a les patriarches, on a les apôtres, on a toutes exactement les mêmes que dans une liturgie nicéenne, et on dira plus tard catholique et orthodoxe. Mais...
Je crois, grâce à toi, toi qui m'as appris que une étude très récente d'une chercheuse italienne a donné des indications sur la graphie employée.
Oui, effectivement, c'est en préparant les émissions, là, que par rapport à des ouvrages un peu plus anciens, je suis tombé sur un ouvrage plus récent qui fait état des travaux de cette chercheuse de l'Université de Pérouse, hein, en Italie, Carla Faluomini, qui, elle, est une historienne linguiste, c'est comme ça qu'on dit.
Linguiste.
C'est-à-dire, voilà, elle a travaillé, et elle a travaillé sur la graphie, donc relevée très précisément par notre fameux bénédictin du XVIIe siècle.
Ah oui, Odon Lamotte.
Et cette graphie, en fait, est une graphie, elle confirme que c'est une graphie visigothe.
Ah, elle n'est pas
gothique, on dit gothique, c'est-à-dire oui. Que sur les Ostrogoths ou les Visigoths, ils parlent go. La langue gothique, je précise que du coup, là, c'est sans le H. Voilà, on parle de gothique avec un H. Bon. Mais là, la langue gothique, et en fait, c'est une transcription du latin, en alphabet latin, de la langue gothique, mais on voit bien qu'en termes de phonétique et de prononciation, on retrouve très bien le nom, justement, des apôtres, des patriarches, etc. Et du coup, elle apporte, donc, de manière assez récente, un peu la preuve, la confirmation qu'il s'agit bien, à la base, d'un bâtiment construit par les Visigoths, sans doute lié au complexe palatial, hein, le palais royal est tout près, hein,
Eh bien, voilà Jean-François, beau rebondissement pour cet édifice qui n'a pas fini de nous étonner et qui n'a pas fini d'inspirer les chercheurs, les historiens-chercheurs.
Bonne semaine à tous. Et puis je pense qu'on n'a pas, pas allé au bout des connaissances sur la dorade. Donc, il faudrait y revenir peut-être.